Je m'appelle Gabriella Battaini-Dragoni, je travaille au Conseil de l'Europe qui est basé à Strasbourg. Et je m'occupe de questions d'éducation, culture, jeunesse et sport en tant que directrice générale et je suis nommée également en tant que coordinatrice du dialogue interculturel.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les actions qui sont mises en place par le Conseil de l'Europe sur justement les luttes et la prévention sur les discriminations?
Le Conseil de l'Europe mène une action très vaste dans les luttes contre les discriminations. Tout d'abord par un comité qui fait des examens réguliers et par des experts indépendants dans tous les États membres sur les situations existantes dans les différents contextes nationaux quant à l'existence d'une législation appropriée, des structures appropriées, des mesures appropriées pour lutter contre la discrimination. D'année en année, les rapports sont établis et ils sont ensuite présentés aux autorités nationales pour justement signaler certaines défaillances, les mesures nécessaires pour assurer des améliorations et ainsi de suite. Mais à côté de cela, nous avons aussi une présence très forte au Conseil de l'Europe dans la personne de notre commissaire aux droits de l'homme. Et notre commissaire aux droits de l'homme, chaque jour, en fait, ne fait que condamner des discriminations. D'abord, de les constater dans les différents États membres et de les condamner de manière très ouverte. Mais dans la lutte contre les discriminations, n'oublions pas non plus le document certainement le plus important sur le plan normatif, qui est notre Convention européenne des droits de l'homme. Laquelle convention contient un article précis, l'article 14, qui porte justement sur la lutte contre les discriminations. Discrimination de tout genre, qu'il s'agisse de pays d'origine, qu'il s'agisse de questions de couleur de la peau, de groupe ethnique, de sexe, de âge, et ainsi de suite. Donc tous les cas sont prévus par cet article. Et il est évident que puisque les citoyens qui résident en Europe peuvent accéder, après avoir accédé aux systèmes nationaux, à la Cour européenne en tant que telle, s'ils estiment que leur cas n'a pas été suffisamment traité ou traité diligemment, la Cour a, à travers les décennies depuis qu'elle existe, eu la possibilité d'élaborer une jurisprudence très riche en matière de lutte contre les discriminations. Mais notre action ne se tient pas exclusivement au domaine normatif, établir des normes et vérifier qu'elles sont appliquées. Elle porte aussi beaucoup sur ce que Montesquieu, ici à Bordeaux, avait écrit il y a plusieurs siècles sur la nécessité de développer les vertus démocratiques. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, nous avait appris qu'on ne peut pas imaginer de vivre dans une vraie démocratie et dans le respect réel des autres si on n'est pas doté de ces vertus démocratiques. Or, ces vertus, ce sont justement la connaissance des droits de l'homme, de la primauté du droit, de la démocratie et de ses règles, et ce sont des connaissances fondamentales que toute jeune personne doit apprendre à travers l'éducation pour pouvoir par la suite avoir appris à respecter l'autre, à connaître les droits et les responsabilités de chacun, et donc assurer par ces moyens un vivre ensemble fondé sur l'égale dignité de chacun.
Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de certains outils qui seraient mis en place pour lutter particulièrement sur les discriminations dans l'apprentissage et dans la formation professionnelle?
Dans l'apprentissage en général, qu'il soit professionnel ou qu'il soit dans le système éducatif classique, ce qui est très important, c'est la question d'assurer l'accès pour tous les enfants qui résident dans un État ou dans un territoire donné à une éducation de bonne qualité. C'est un problème, je dirais, pour certains groupes de population au sein de l'Europe qui encore existent, malheureusement. Et je pense en particulier aux communautés roms, aux voyageurs, tziganes, qui dans certains pays n'ont pas accès, en tant qu'enfants, à des écoles de qualité. Au contraire, on a constaté qu'il y avait des pratiques extrêmement discriminatoires qui visaient à mettre ses enfants dans des écoles de deuxième ordre, ou si je peux ainsi m'exprimer, des écoles qui étaient vraiment prévues pour des enfants porteurs d'un handicap mental. Donc ça, c'est une forme, mais il y en a évidemment plein d'autres, qui font que déjà dans l'accès à l'éducation, il y ait des groupes d'enfants, des groupes de population qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. Ça, c'est la première forme grave de discrimination, parce que l'accès à l'éducation est la première porte qui va ouvrir le vrai processus d'intégration au sein d'une société donnée.
Et alors, qu'est-ce que le Conseil de Rome met en place justement pour lutter contre cette forme de discrimination? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques? Est-ce qu'il y a des appels à projets pour soutenir le travail des associations locales? Comment est-ce que ça se
passe? Tout à fait. D'abord, il y a la condamnation de la part de la Cour qui condamne l'État qui permet de telles pratiques. Dans le cas concret sur le territoire, ce que nous faisons, c'est essentiellement former sur le plan européen des médiateurs. Des médiateurs qui vivent dans les communautés, dans les cités, et qui vont, eux, intervenir pour s'assurer que l'enfant rom, dans le cas d'espèce pour l'exemple que je viens de vous donner, puisse faciliter l'accès de cet enfant à une école de qualité en discutant avec les autorités de l'éducation sur le plan local, de la ville ou du village où cette communauté vit. Donc, il y a des formes de ce type, mais il y a également des formations spécifiques que nous faisons pour préparer les enseignants à accueillir dans la classe les enfants qui ont une culture rom et pour leur permettre leur intégration rapide, tenant compte aussi de leur différence qui est linguistique et pas seulement culturelle, et les aider pour faciliter les processus d'intégration et pour atteindre des bons niveaux de formation. Donc, sur le plan local, le médiateur qui va ouvrir la porte de l'école. Ensuite, l'enseignante formée à l'intérieur de l'école, selon des méthodes que nous appliquons à travers toute l'Europe, vont donner une chance à des enfants roms d'avoir accès à une éducation de qualité. Voilà l'aspect pratique, mais accompagné par l'aspect aussi de caractère monitorage de l'application des lois et des règles qui sont reconnues sur le plan européen et qui font que parfois les États sont condamnés. Et donc, des mesures pratiques doivent être prises dans les mois qui suivent pour que la situation de, disons, discrimination qui a été constatée soit corrigée.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire un mot sur les outils qui peuvent être mis en place pour la lutte contre la discrimination sur le patronyme? Je ne sais pas, des outils qui seraient mis en place qui permettraient d'éviter les discriminations liées au patronyme, toujours dans la formation professionnelle d'apprentissage. C'est-à-dire le refus des formations, etc.
Alors, je dois vous avouer que de ce point de vue-là, sur le plan européen, à Strasbourg, nous avons été très impressionnés, très favorablement impressionnés par la charte de la diversité, qui a permis, en effet, de mettre le doigt sur l'existence de ce problème en matière d'accès à l'emploi. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cet exemple et nous l'avons même mentionné explicitement comme une forme d'excellente bonne pratique à pratiquer ailleurs dans d'autres États européens dans le cadre de notre livre blanc sur le dialogue interculturel où nous avons essayé de recenser des bons exemples et des bonnes pratiques dans différents domaines. Mais dans celle-là, relative à la question précise que vous me posez, dans la question du patronyme lié à l'accès à l'emploi, nous avons pris inspiration sur la base de la charte de la diversité, qui à notre avis est l'un des bonnes pratiques qui va le plus loin sur le plan européen en la matière.